bilan.
Cette loi qui est annoncée par n'importe qui, par le ministre de la Justice, ça peut être extrêmement une sorte de pression sur les journalistes qui s'expriment en ligne, les amener à une sorte d'autocensure, de peur d'être embastillés ou d'être pris.
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Venu d'ailleurs, la nouvelle émission sportive, mais pas que, de Radio G. Animée par Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine. À retrouver un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Une conversation intime avec un ou une invitée venue d'ailleurs et qui vit aujourd'hui sa passion pour le sport à Angers. Alors à très vite dans Venu d'ailleurs sur Radio G. Venu d'ailleurs, c'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Venu d'ailleurs, l'émission que vous écoutez à votre guise, un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G, en replay sur radio-g.fr ou en podcast via le site de l'association La Dalle Angevine qui aime vous parler du sport angevin à sa façon. On accueille aujourd'hui dans notre studio Anne-Louise Delapoip, 60 ans, qui est passionnée de golf et qui est active au sein de l'Anjou Golf à Champigny. Bonjour Anne-Louise et bienvenue dans Venu d'ailleurs.
Bonjour Valentin, merci beaucoup pour votre accueil, pour ton accueil.
Oui, on se tutoie.
On se tutoie, super.
Alors Anne-Louise, première question rituelle de l'émission, dans quel pays, dans quelle ville tu es née?
J'étais née à Londres, dans une banlieue qui s'appelle Balham. Balham. Et je suis restée à Londres jusqu'à l'âge de 6 ans.
Tu as des souvenirs de là-bas, de Londres?
Oui, j'ai des souvenirs de petite fille. Et puis surtout du voyage. En quittant l'Angleterre, nous avons pris le bateau, ma mère et ma sœur, et nous avons pris 6 semaines de voyage sur un bateau qui s'appelle le Himalaya, en passant par ce qui était à l'époque Bombay, qui est maintenant Mumbai, Singapour, Penang, Hong Kong.
Et
les souvenirs d'une petite fille, non, mais c'était incroyable.
C'était quoi ce voyage? C'était pour aller où?
Pour aller à Wellington, en Nouvelle-Zélande, où j'avais vécu avec ma famille 2 ans. Et par la suite, nous sommes partis à Sydney, de vivre à Sydney en Australie.
Alors, on va récapituler à Louise. Donc, vous êtes née à Londres. À quel âge vous êtes partie vivre en Nouvelle-Zélande?
Donc, j'avais 6 ans.
D'accord. À 6 ans, il y a eu ce voyage en bateau pour partir à Wellington.
Oui.
Et vivre à Wellington avec votre papa et votre maman.
Oui. D'accord. Donc, pendant 2 ans.
Pendant 2 ans, Wellington, de 6 à 8 ans.
Oui.
Comment ça se fait pourquoi vous avez quitté Londres pour Wellington en famille comme ça?
C'est parce que mon père, à l'époque, travaillait dans la télévision. C'était tout le début, black and white. Et puis, il avait une mission en Nouvelle-Zélande. Il était missionné pour les actualités. Je commence à parler franglais, pardon.
C'est très bien, ça ira, on comprendra.
C'est the New Zealand Broadcasting Corporation. Donc voilà. Et puis après, on est parti, après ces 2 ans à Wellington, on est parti à Sydney.
Pareil,
pour les mêmes raisons.
Pour les raisons professionnelles du papa.
Oui.
Et le papa, ton papa et ta maman étaient... sont anglais ton papa était originaire d'Australie ou de Nouvelle-Zélande ou...
Mon père est néo-zélandais.
D'accord.
Et ma mère était née en Mozambique, en Afrique.
D'accord.
D'une famille principalement irlandaise.
Donc, déjà d'entrée de jeu là, de naissance, il y a un mélange là, il y a un mix qui vient de loin, qui vient de plusieurs endroits en toi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, elle a grandi dans un environnement où la portugaise était parlée couramment, portugaise, anglais, et puis elle était scolarisée en Afrique du Sud. Donc,
elle a vécu jusque longtemps en Afrique du Sud.
Elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans.
D'accord. Ça veut dire que dans ton enfance, il y avait déjà plusieurs langues parlées à la maison, dans ton environnement proche.
On a parlé, pas vraiment, malheureusement. Maman parlait pas couramment portugaise, malgré le fait qu'elle était élevée avec ces musiques des langues. Et d'ailleurs, elle capte facilement quand je parle en français ou qu'elle entend les personnes parler en français. Elle capte bien parce qu'elle a déjà l'oreille bien éveillée. Mais malheureusement, non. C'était pour ça que j'ai beaucoup lutté en arrivant en France pour pouvoir maîtriser la langue, parce que apparemment j'ai pas l'oreille que ma mère a eu, j'ai pas eu cette exposure envers des langues différentes.
D'accord, donc en arrivant en France, on y reviendra un petit peu pendant le parcours, mais en tout cas cet apprentissage de la langue française que tu maîtrises parfaitement aujourd'hui, on l'entend, il a été compliqué, ça a pris du temps.
Oui, d'accord. Ça a pris du temps. J'en veux à mon prof de Alliance française à Melbourne. J'étais en train de travailler pour la télévision à Melbourne et le prof m'a dit, mais ça va aller, Anne-Louise, quand tu arrives en France, nickel, ça va aller, lettre à la poste. Et en arrivant, non, mais c'était pas du tout ça. C'était un choc, mais frontal, que j'avais pas du tout le niveau que j'avais imaginé.
Et dès lors, j'imagine que on se sent un peu loin de tout et de tout le monde et de la compréhension des choses. C'est très dur aussi dans l'intégration de pas maîtriser la langue, de pas être.
Oui, c'était un parcours. Hein. J'ai pris beaucoup des leçons des professeurs en individuel avec l'idée que j'allais apprendre plus vite. Mais voilà, aujourd'hui j'essaie de m'efforcer de lire en français, de lire beaucoup, donc le plus épais le livre, le mieux c'est.
D'accord.
Donc
plusieurs tomes.
Plusieurs tomes, oui, c'est ça.
Des histoires en plusieurs tomes. Alors on parlait du professeur de l'Alliance française à Melbourne, ça nous permet de revenir un petit peu à l'Australie, et donc à partir de 8 ans, fini la Nouvelle-Zélande, direction l'Australie, donc là c'est là où tu as passé le reste de ton enfance, de ton adolescence,
où tu
as étudié, c'est plus ta base avec beaucoup de souvenirs, j'imagine.
Beaucoup de souvenirs, mais nous sommes répartis en Nouvelle-Zélande, encore pour les raisons professionnelles, et j'ai commencé dans la vie professionnelle, les études, la vie professionnelle là-bas.
D'accord.
Et par la suite, je suis retournée à Sydney.
Ok. Bon, ça va, c'était pas trop loin.
C'était pas trop loin. Et puis, par la suite, à Melbourne, j'ai fait une petite année à Melbourne avant de venir en France.
Donc, tu as parlé un petit peu tout à l'heure, tu es entré un peu dans le vif du sujet, mais raconte-nous un petit peu tes études. Qu'est-ce que tu as étudié? Quel métier tu as appris et exercé?
J'ai une formation de journaliste. Vraiment, l'ancienne école. En Nouvelle-Zélande, j'ai fait un apprentissage qui était une sorte d'alternance avec The Technical Institute of Auckland et puis Radio New Zealand. Donc, j'ai commencé avec Radio New Zealand comme apprenti journaliste. Et puis, c'était à l'époque, quand le rédacteur en chef n'était pas content, il prenait le copie. Et puis, hop, c'était dans la poubelle, devant ses yeux.
Ah oui, donc, dur, à la dure.
À la dure, hein. Oui. Donc, j'ai des souvenirs. Hein. Non, mais j'ai des souvenirs très marquants. Un jour, j'ai fait une faute. J'avais pas vérifié une fête. Il y avait un accident. J'avais pas vérifié une fête. Et j'étais rappelée par le rédacteur en chef de toute la rédaction. En privé, lettre ouverte à toute la rédaction. attention à vos sources, attention à double vérification pour chaque fête. Donc,
devant tout le monde.
Devant tout le monde, non mais l'humiliation, mais aussi l'apprentissage. Et maintenant, quand je vois la fake news, mais c'est... oui. Bref, c'est un autre sujet.
Tout à fait. Et, on n'a pas encore parlé de sport dans tout
ah
ça
oui,
et de votre rapport au sport parce que
oui.
on est dans l'enfance, Londres, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on voyage beaucoup, mais comment est arrivé le sport dans votre vie? Ça a été quoi le premier sport que tu as pratiqué? Alors je passe du vous au tu, désolé, mais il faut que ça vienne naturellement.
Le premier sport était vraiment le tennis à Sydney. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de maman, qui avait cette exposure aux langues, mais comme elle a grandi en Afrique du Sud, dans son école, c'était du sport. Il y avait une telle importance au sport. Et puis, c'est elle qui m'a introduit au tennis à Sydney. Pour elle, le sport, c'était vraiment... On se posait pas de questions. C'est naturel. Ça fait partie de la vie. C'est très important. D'ailleurs, je peux faire une sorte de publicité pour mon père, qui a 97 ans. Et l'année dernière, j'étais à Auckland. Mais les jeux athlétiques pour les masters, les seniors, en Nouvelle-Zélande, ont eu lieu à une ville qui s'appelle Whanganui. Qui est une petite distance d'Auckland, et à 97 ans, il a gagné 600 mètres, 400 mètres, 200 mètres, 100 en longueur, et le javelot.
Incroyable.
Et il a gagné les médailles d'or parce qu'il était le seul dans son catégorie.
Oui, mais il s'est inscrit, il a fait les épreuves. À 97
oui.
ans,
oui.
Il était dans ces jeux
oui.
athlétiques dédiés au master, à la catégorie master.
Exact.
Incroyable.
Oui.
C'est un héros.
Je pense qu'il dirait non, c'est pas ça. Il refuserait ce titre, mais cette description que tu viens de lui accorder, je vais lui dire d'ailleurs. Mais pour dire que le sport était important, et puis après.
Donc du côté de la maman et du côté du papa aussi, on vient d'en avoir la double preuve.
Oui, le père, papa a commencé plus tard. Hein. Il a vraiment commencé ses marathons quand il avait 50 ans.
D'accord.
Donc il a dédiqué sa vie à sa profession, et puis tout d'un coup, hop, des marathons.
Le défi, quoi. Besoin d'un défi.
Besoin d'un défi, mais c'est exactement ça. Et ça continue toujours. On est en train de, à présent, arracher nos cheveux parce que il veut aller au Orlando, aux États-Unis, en juin pour les Jeux athlétiques seniors aux États-Unis. Donc, on se dit non.
Des championnats mondiaux ou c'est ça?
Je crois que c'est juste américain.
D'accord, ok.
Mais il ne veut pas nous écouter. Il n'y a rien à faire.
Il faut surtout pas l'empêcher d'y aller.
Non, on ne peut pas de toute façon.
Oui, il y avait le mot de défi qu'on employait. Bon,
oui.
Y a une question aussi de, on se fixe un défi, mais on défie le temps qui passe aussi, quoi.
Oui.
On veut montrer qu'on est encore capable de. On vieillit, mais on est encore là. Et le sport nous autorise ça, nous permet ça.
Tout à fait.
Je crois.
Oui. Et cette question de rester active et de rester souple. En tête et en corps et en esprit, on espère.
C'est génial. En tout cas, ça donne envie de le rencontrer, ce papa. Est-ce que tu peux citer son nom? Comment
oui, il s'appelle Alan Martin.
D'accord, Alan Martin. Ok.
Ouais.
Donc, en tout cas, lui et ta maman ont fabriqué aussi une sportive, hein, parce que donc toi, il y a eu le tennis. Après,
ouais.
Tu es tombée amoureuse d'autres sports. Il y a eu d'autres choses.
En venant en France, en fait, en arrivant en Anjou, j'ai découvert le golf. Et maman, depuis, elle a laissé tomber le tennis parce qu'elle s'est fait mal à un moment donné. Elle s'est tournée vers le golf. Donc, j'ai pris des leçons, j'ai pris ma carte verte, mais c'est que récemment, donc ça c'était il y a 30 ans, mais je dirais c'est que récemment que je me dis, non mais quel sport, hein? C'est quel sport. Là, tu as parlé, Valentin, de poésie, là, dans le golf, il y a de poésie, il y a de poésie. C'est un repos pour l'esprit, pour la tête. Physiquement, ça rappelle le yoga. Il faut pas penser. Il faut jouer, il faut pas penser. J'ai pris quelques cours, Guillaume à Champigny, il va me pardonner, mais j'ai pris quelques cours à Sablé avec Bernard Giordenengo, qui me dit toujours, Anne-Louise, too much brain, stop thinking.
Trop de cerveau en fonctionnement, c'est ça.
Donc il y a le lâcher prise.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser parler le corps, s'exprimer le corps. Le sport autorise une réflexion, pourtant,
oui.
Surtout dans le golf ou d'autres où on est en phase arrêtée, où le moment est arrêté et on a le temps avant d'agir, de penser la chose. Il faut aussi penser la chose ou moins.
Non, tu as raison. Il faut penser, il faut réfléchir au practice. Il faut avoir une petite routine en approche à la balle. Il faut avoir prise en compte tous les paramètres avant de jouer. Et le moment de jouer, il faut plus y penser de tout ça. Il faut se mettre dans une sorte d'état second. Non, mais les golfeurs, s'il y a des golfeurs, il y a peut-être parce qu'il y a tellement de Instagrammeurs maintenant, mais si quelqu'un nous écoute, peut-être ils sont pas du tout d'accord avec moi. Mais je pense, il faut se mettre dans la zone. Il faut juste créer le mouvement et capture cette poésie.
Tout à fait. Hein.
Cette poésie. Ce moment de qui est absolument merveilleux.
Un moment de grâce.
Et puis, on peut, il faut prendre des leçons. C'est pas forcément évident au départ, mais quand on tape une balle bien, on revient pour ça, parce que c'est une telle sensation. Je pense pas que j'exagère. Les gens qui jouent au tennis disent, oh, c'est trop lente. D'accord. Mais à un moment donné, c'est tellement fascinant. Il y a tellement de, comme j'ai dit, des paramètres et des niveaux et d'architecture. Là, je crois que j'ai le bon mot, d'architecture dans ce jeu. Qui me plaît.
Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux développer un petit peu ce mot d'architecture? Qu'est-ce qu'il renvoie par rapport au golf?
D'architecture, c'est la structure de... Donc là, j'hésite. C'est le geste ou la geste?
Le geste.
Le geste. C'est de décortiquer le geste.
Puis c'est un peu la forme du geste.
La forme du geste. C'est la forme du geste. Et il y a plusieurs niveaux dans le geste. C'est pas que le grand swing, il y a des petites swings qui nécessitent une discipline. Donc là, c'est un autre geste et c'est une autre architecture parce qu'il faut se positionner autrement. Il faut réduire tout, la taille, l'amplitude du geste. Il faut faire un petit tap.
Maîtriser son corps, là.
Maîtriser l'envie de... envoyer la balle, et là c'est complètement autre chose. Et puis, en parlant d'architecture, c'est aussi la nature, on est dans la nature.
J'y pensais pendant que tu parlais à ce côté, ce lien,
oui.
À la nature, à l'espace.
L'espace.
Le vaste, le temps aussi, on a le temps, enfin
oui.
Tout ça me paraît être un petit peu la même chose.
Exactement, c'est exactement ça, la nature et comment on se positionne dans l'espace. Et puis, au départ, les grands parcours me paraissent immenses. On se sent quelque part tout petite, mais on est tellement focalisé sur la balle qu'on oublie tout.
La balle est encore plus petite que nous.
Oui, et quelquefois, c'est enrageant de perdre sa balle. On entend les joueurs qui disent « Oh, non mais j'ai perdu combien de balles ?» Mais c'est enrageant de ne pas avoir vu où est tombé sa balle. Ça c'est peut-être un autre aspect.
Oui, c'est un sport aussi où on peut développer des émotions négatives, une colère, des frustrations, comme dans toutes les disciplines d'ailleurs. Dès lors qu'il y a échec de soi, constatation de l'échec de soi.
Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose. Il faut maîtriser.
Il faut apprendre à le maîtriser.
Oui, parce qu'il y a des moments de frustration énormes, mais il faut pas s'exprimer sur le parcours, hein, à question d'étiquette, normalement. Et puis, je pense aussi, c'est pour ça que c'est un jeu qui est tellement bien pour les jeunes. D'abord, parce qu'on n'est plus sur les écrans, mais aussi cette maîtrise de soi. On est confronté avec la difficulté. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. Il faut pas non plus, comment dire, se fouetter chaque fois. Et de ce point de vue, il faut apprendre. OK, j'ai fait un mauvais geste, j'ai loupé la balle. Ensuite, oublie ça, on progresse.
Switch, ouais.
Switch, ouais.
Passe à autre chose.
Passe à autre chose. Donc, j'imagine, Valentin, c'est similaire dans le foot. Tu dis, oh, j'ai loupé une passe ou quelque chose. Donc, il faut pas se focaliser dessus parce que tout le jeu est là.
Oui, puis la nature du jeu t'invite à faire de suite une autre action, une autre proposition. De la même manière qu'en golf, tu passes à autre chose. La nature du jeu t'invite à tout de suite à passer à autre chose. C'est une chance aussi. Il faut aller vers le prochain coup, le prochain choix.
Oui, tout à fait.
En tout cas, on a compris ton rapport au golf qui est singulier et passionnant. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps,
vraiment
en jouant, en découvrant la profondeur de cette activité.
Oui, et puis,
ses vertus.
Tout à fait, mais il y a des moments de refus. Donc, il y a des moments où on se sent pas bien. Et en discutant avec les membres à Champigny, plusieurs personnes m'ont dit, mais j'ai pas pris mon club, le driver, qui est le plus grand club, j'ai pas pris ça depuis quelques semaines parce que je ne suis pas bien. Donc ça c'est intéressant. Il faut aussi s'écouter.
Il y a la sensation, là, le sensible, le rapport aussi à l'objet, à l'accessoire. Il faut qu'on se sente bien, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, je vais retourner avec plaisir bientôt.
Parce que tu sors d'une petite pause.
Je sors d'une petite pause.
Il faut aussi faire des pauses pour que le golf te manque aussi et avoir un plaisir de le retrouver, peut-être.
Oui, c'est vrai. Et mais je suis aussi, je regarde beaucoup trop les golfeurs sur Instagram. Mais maintenant, j'espère que je vais emmagasiner quelques astuces, quelques idées de visualisation et je vais aller mettre ça à l'épreuve.
Tu veux progresser?
J'aimerais bien. Oh, mais ça, c'est une autre chose.
C'est une quête. C'est une quête qui ne te quitte pas.
C'est une quête, mais je dirais que c'est un processus créatif. C'est pas linéaire du tout. On ne peut pas attendre que parce que c'est vraiment up and down. C'est un processus créatif et c'est plaisant. Mais aussi, c'est une façon de se reposer.
De quoi, de faire une pause ou de jouer?
Pardon, oui, j'étais pas claire. C'est une façon de jouer au golf, c'est une façon de couper de tout parce que on se focalise.
Je comprends.
C'est un peu comme un art, ben, j'espère, hein. J'ai fait un peu de judo très très jeune, mais je vois ça comme un art martial en fait. Ça coupe de tout quand on est sur le parcours. On vide la tête et
oui, c'est un espace inédit, un peu inouï où il y a pas de place pour autre chose que le jeu et ses coups et
exact.
Son avancée. Ça fait du bien, quoi.
Ça fait énormément du bien. Ça m'arrive après avoir joué 18 trous d'avoir cette sensation d'avoir été en vacances.
Génial. Ouais, ça c'est très précieux comme espace, du coup.
Oui. Et s'accorder, tu as parlé de temps tout à l'heure, c'est aussi l'idée de s'accorder le temps, cette richesse. On s'accorde cette richesse du temps.
D'ailleurs, souvent ces moments-là, ils vont avec une espèce de distorsion du temps, du ressenti du temps. On sait plus combien de temps on y a passé et peu importe. Et on regarde pas le temps, quoi. Si on va au bout de l'expérience.
Exactement.
D'accord.
Que tu exprimes les choses bien.
Toi aussi.
Tu lis
toi
mes
aussi.
Pensées. Non mais c'est exactement ça.
on est parti là sur la pratique du golf et ta manière d'y jouer et de le considérer qui est très belle et très intéressante. À la base, tu nous disais que tu as commencé le golf en arrivant en France, en Anjou. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur ce déplacement? Pourquoi tu es arrivé en France? Pourquoi tu es arrivé ici à Angers? Et c'était quand?
Ah oui, donc je suis arrivé en France en 1990 parce que j'étais boursière au CFPG à Paris. Et j'ai fait une année, comme une quatrième année, dans le programme était focalisé sur la politique d'Europe. Et puis après ça, j'ai travaillé à Paris pendant quelques années et je suis venue en Anjou avec mon cher mari en 2000. Et j'avais des enfants en bas âge, donc j'ai pas joué au golf pendant cette période-là. Et puis après, elles étaient plus grandes, j'ai pu m'accorder le temps de reprendre quelques cours et de reprendre le sport.
Et tu as posé tes valises en Anjou depuis. Tu n'es pas reparti ni à Londres, ni à Wellington, ni non. À Melbourne. C'est ici à Angers que ça se passe et tu te plais ici?
Ah oui, mais j'adore Angers et Anjou. Maintenant, j'avoue qu'au départ, mais quel choc. C'était un choc en étant citadine de se retrouver à la campagne. Ça, c'était un choc. Mais j'ai aussi vécu quelques années Angers-Centre et j'adore la ville. Je me sens, en fait, mon ancien compte Twitter s'appelait l'Anglo-Angevine.
Et alors, qu'est-ce qui se passait sur ce compte Twitter? Tu célébrais la ville d'Angers? Tu la mettais en valeur?
En fait, non. J'étais vraiment dans tout ce qui s'est passé côté média.
D'accord, ok. C'était juste le nom qui faisait référence à cette double.
Oui, une sorte de
sentiment d'identité. D'appartement d'identité, ok. À la fois ton pays d'origine et puis. Le pays que tu avais trouvé, quoi, l'endroit que tu as trouvé où tu te sentais bien.
Oui.
D'accord. Et aujourd'hui, tu as cité peut-être le golf tout à l'heure, c'est à Champigny, c'est ça?
Oui.
Parle-nous un peu de cet endroit où tu es aussi, tu joues, mais tu es aussi impliqué sur d'autres choses. C'est l'Anjou Golf à Champigny, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit golf à la campagne, mais nous avons la chance d'avoir des membres avec une association, un Members Association, l'association sportive absolument fantastique. Et puis notre, le driver, est vraiment d'être un golf ouverte et démocratique et d'avoir une ouverture à tout le monde. Et puis, dans ce façon, dans cette optique, notre pro Guillaume Le Soliec, qui habite à Champigny, est juste absolument génial parce qu'il accueille des jeunes. On a une trentaine de jeunes de l'âge de 5 ans jusqu'à 16 ans.
Là, c'est une école de golf,
où on
accueille des jeunes.
Tout à fait. Il est indépendant, mais il est chez nous. Donc, nous avons cette chance-là. Et puis, on a beaucoup de gens qui sont des golfeurs assidus. Et je suis très fière de dire, on a beaucoup de jeunes. Donc ça c'est ainsi que il faut pas manquer de respect envers de nos seniors. Hein.
Mais en tout cas, le golf, loin des idées reçues, concerne tous les âges et on
tous
peut jouer
âges.
Au golf à tous les âges. Il n'y a qu'à aller dans un golf pour voir que c'est la réalité.
Ah oui, et puis il y a une famille, la famille Rodelec, coucou, donc troisième génération sur le parcours maintenant. Les golfeurs, donc Julien qui faisait partie de Challenge Tour, qui est une tour très reconnue en Europe, donc on a des joueurs d'un très bon niveau. Et personnellement, je m'occupe du site web et réseaux sociaux.
Donc tu gères ça au quotidien?
Oui, tout à fait. J'essaie d'être d'avoir des choses à dire intéressantes. C'est chronophage, on ne peut pas toujours être partout, mais on essaie d'avoir un message et un visuel intéressant.
Alors Anne-Louise, le temps a passé vite, c'est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation. Et dernière question avant de se quitter, rituel aussi de cette émission. Quand est prévu ton prochain voyage sur une terre familière qui t'est chère? Peut-être l'Angleterre, peut-être l'Australie, peut-être la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu vas retourner peut-être voir ton papa en Nouvelle-Zélande?
Oui, donc j'espère. Hein, il faut que j'embrique ça cette année. Oui, la famille est